Bonjour et bienvenue autour du piano blanc. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par la musique de l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une femme que je connais depuis plusieurs années déjà, mais que j'ai redécouvert tout récemment grâce à son enseignement du yoga, Audrey-Anne Trudel. Salut Audrey-Anne, comment ça va?
Salut, ça va super bien. Merci de me recevoir sur ton podcast.
Merci à toi, ça fait vraiment plaisir. C'est drôle parce que j'ai vraiment fait une introduction des plus brèves à ton sujet, mais tu as vraiment un parcours particulier, ponctué de plein d'expériences. Tu es passé du domaine du droit à celui du bien-être, tu as même fait un peu d'administration, là tu t'en retournes aux études, il y a plein de choses qui jalonnent ton parcours. Est-ce que tu serais capable, puis là c'est la question qui peut être longue un petit peu à répondre, mais peux-tu nous décrire en quelques lignes ce qui fait que tu es la personne assise devant moi aujourd'hui?
Oui, effectivement, j'ai un parcours qui est un peu difficile à résumer, mais un mot que j'ai bien, que j'aime bien, que j'ai découvert il y a quelques années, c'est de dire que je suis une personne multipotentialiste, c'est-à-dire que j'ai plusieurs intérêts, j'ai plusieurs capacités, si on peut dire, puis j'aime passer d'un à l'autre. Dans le fond, comme tu disais, moi, j'ai étudié en droit à l'Université d'Ottawa. J'ai aussi étudié en sciences humaines parallèlement. Puis après ça, suite à des problèmes de santé, je me suis éloignée du droit. En fait, je n'ai pas fait mon barreau, je ne suis pas devenue avocate, mais même si j'avais terminé mon bac. Puis j'ai découvert le yoga. J'en faisais déjà un peu à l'université, mais je me suis vraiment plus intéressée à ça après avoir essayé tous les professionnels de santé possibles pour mes problèmes de douleurs chroniques. Je me suis tournée vers le yoga, puis j'ai décidé de faire une formation professorale dans le but d'apprendre à me soigner moi-même puis à prendre soin de moi moi-même. J'avais pas l'intention d'enseigner quand j'ai commencé cette formation-là, mais finalement, ça m'a tellement aidée, ça m'a tellement vraiment transformé ma façon de voir la douleur, ma relation avec mon corps, que j'ai décidé d'enseigner. Fait que ça a commencé comme ça. Entre-temps aussi, j'ai travaillé dans le communautaire en défense des droits des personnes handicapées avec mon background en droit puis en sciences humaines. Et une année, j'ai quitté cet emploi-là. J'avais fait le tour, ça c'est l'histoire de ma vie. Après quelques années, j'ai fait le tour de mon projet actuel et je passe au prochain chapitre. Puis là, j'ai décidé de me lancer plus sérieusement dans le yoga quand je suis revenue justement à Saint-Jean après quelques années à Ottawa puis à Montréal. J'ai commencé à enseigner à mon compte. Puis finalement, j'ai rencontré un entrepreneur là, qui voulait agrandir son studio de yoga chez Origin Yoga à Saint-Jean. Puis je suis devenue un peu son bras droit, en fait. Donc, j'enseignais le yoga, mais j'ai vraiment aussi participé beaucoup à l'administration, la gestion du studio, les communications et tout ça. Et pendant 2 ans et demi, puis récemment, là, avec la pandémie, comme plusieurs personnes, ça m'a amené à me poser des questions, puis à évaluer, en fait, là, si j'étais satisfaite de ma vie actuellement. Puis,
je pense qu'il y en a beaucoup qui sont passés par là.
Oui, vraiment, c'est comme classique, comme histoire, mais finalement, je me suis rendue compte que, encore une fois, je sentais que j'avais fait le tour de ça. Pas du yoga, tu sais, j'adore enseigner, puis en fait, peut-être que je trouvais que j'avais besoin de renouer un petit peu plus avec ma propre pratique puis mon enseignement, puis de m'éloigner plus du côté administratif, gestion. Puis j'avais besoin aussi d'être stimulée intellectuellement d'une autre façon. Donc, j'ai décidé de faire un retour aux études. Là, je m'en vais faire un DESS en prévention et règlement des différends. Donc, que les gens connaissent beaucoup sous le nom de médiation, mais qui englobe aussi plusieurs autres aspects, dont le côté plus préventif qui, moi, m'intéresse. Puis je trouve que c'est cohérent, en fait, avec les valeurs du yoga, puis avec mes valeurs à moi. Ça s'éloigne, en fait, de l'esprit de confrontation qu'il y a beaucoup dans le droit plus classique, si on peut dire, là, les chicanes devant les tribunaux et tout ça, pour une approche qui est plus axée sur la résolution de conflits, puis avoir une approche qui est gagnant-gagnant, puis qui est plus dans la pleine conscience, puis la douceur, là, tant qu'à moi. Donc, je trouve que c'est quand même cohérent. Puis, bien sûr, je veux continuer à enseigner le yoga.
Oui, mais je trouve ça super intéressant parce que justement, comme tu dis, je trouve que ça revient un peu au même parce que tu as comme un problème qui peut être soit une douleur ou un problème d'ordre plus psychologique que tu tentes de régler d'une manière, d'une manière douce, d'une manière pacifique, pas en essayant de comprendre le fond du problème en fait. c'est ce que je veux dire. Je trouve qu'il y a un lien quand même à faire entre ça, puis le yoga, puis le droit. Tu sais, c'est comme de chercher... Je pense que tu es quelqu'un qui cherche des réponses, finalement.
Ouais, vraiment. Ben, je suis quelqu'un aussi de très intellectuel, très analytique, mais en même temps très connecté avec mon cœur puis mes émotions. Donc, on me dit souvent que j'ai un bon œil extérieur parce que je suis capable de autant être rationnelle que de comprendre les émotions des gens puis de savoir comment leur parler puis comment les amener un peu à voir la situation autrement. Donc, je pense que c'est cohérent avec mon parcours de m'en aller vers ça.
Je trouve ça super intéressant, en fait, ce que tu dis parce que je pense qu'au départ, on a souvent, puis moi c'est pareil en musique, j'aime ce que je fais, je l'apprends pour mon plaisir, pour bon, le piano, j'adore ça, j'en ai besoin dans ma vie. Dans ton cas, ça a été jusqu'à te soigner complètement. Puis moi, j'utilise souvent le parallèle aussi avec la musique, comme quoi ça me soigne tous les jours. Qu'à un moment donné, vient le moment où on a ce besoin-là de partager avec les gens, donc d'enseigner. On me demande souvent pourquoi j'enseigne, bien, c'est vraiment la raison que je donne. En fait, c'est juste comme on n'a pas le choix. Pour moi, les bienfaits sont tellement évidents que je me dis, il faut que je partage ça avec les gens, il faut que je fasse rayonner mon art, que je fasse rayonner ce qui se passe autour de moi. Qu'est-ce qui a fait que suite à ta formation professorale, avec le temps, tu t'es dit, OK, là, j'ai plus le choix, j'ai envie de partager cette étincelle qui m'anime?
Bien, premièrement, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire ma formation, il faut comprendre, j'avais un diagnostic de fibromyalgie, puis suite à mes études, là, mon système nerveux a complètement lâché. Puis quand j'ai commencé ma formation de yoga, j'avais de la misère à sortir de chez moi, puis j'avais de la misère à me lever de mon lit. Tu sais, j'avais pas d'énergie. Fait que juste de retrouver un certain niveau d'énergie qui n'était pas 100%, mais juste ça, de me dire « Ah, peut-être je serais capable de partager puis d'enseigner. » Puis moi, je viens d'une famille aussi, j'ai beaucoup d'enseignantes dans mon entourage. Donc j'ai comme grandi un peu avec cette idée-là d'aimer enseigner puis d'aimer transmettre. Mais la chose, je pense, qui m'a le plus frappée dans ma première formation, en fait, qui m'a le plus marquée, en fait, ou qui m'a le plus servi, c'est d'apprendre à changer mon regard sur la douleur puis sur mon corps, tu sais, à me désidentifier de ça. T'sais, c'était rendu que je m'étais tellement mis une étiquette de personne malade que ça devenait difficile de m'en défaire. Même si j'étais moins malade, ça faisait partie de mon identité. Puis quand j'ai compris que non, la douleur, c'est pas moi. Tu sais, oui, je coexiste, je cohabite avec elle, mais c'est pas moi. Fait que j'ai pas à me définir juste par ça. Puis les outils de pleine conscience puis de méditation m'ont vraiment beaucoup, beaucoup aidé avec ça. J'ai développé une relation différente avec mon corps. Puis là, ça fait... ça va faire bientôt 5 ans, dans le fond, que j'enseigne le yoga. Puis, tu sais, quand on commence n'importe quelle entreprise ou n'importe quel projet, les raisons pour lesquelles on fait, souvent, peuvent évoluer. Puis, au fur et à mesure qu'on le fait, ça va se raffiner. Puis, ça va, tu sais, on va devenir vraiment plus précise à propos de pourquoi on le fait. Puis, là, récemment, pour moi, le yoga, c'est vraiment une façon de redonner aux gens le pouvoir sur leur corps, puis la souveraineté sur leur corps. Puis qu'il n'y a personne d'autre que toi qui peut savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. Puis c'est sans aucunement dénigrer la médecine traditionnelle, la médecine plus d'hôpital, puis tout ça qui m'a aussi beaucoup aidée. Mais les gens doivent savoir que c'est eux le maître de leur corps, puis qu'ils ont le droit de poser des questions, puis qu'ils ont le droit de modifier, puis qu'ils ont le droit de remettre en question, en fait, les traitements ou les exercices ou les postures de yoga, puis tout ça. Donc, c'est vraiment ça, là, en ce moment, qui m'habite. Puis, tout particulièrement, les femmes, parce que c'est majoritairement des femmes qui viennent dans les cours de yoga, puis on le voit, là, avec tout ce qui est les agressions, puis tout ça, pour moi, ça devient un outil majeur d'empowerment.
Mm-hmm. Mais on sent vraiment que tu remets énormément de choses en question.
Constamment.
c'est ça qui est beau, en fait, puis c'est ce que j'apprécie beaucoup de ton enseignement, c'est qu'on sent qu'il y a tout le temps... C'est l'avocate en toi, je pense. T'sais, on dit toujours qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Ton cheminement est là pour une raison. Tu remets toujours tout. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile de voir? En fait, je vais poser ma question encore une fois différemment. Souvent, on voit dans les cours de yoga les fameuses personnes qui essaient de faire les postures de la manière la plus parfaite possible. Moi, quand j'ai commencé le yoga, je savais très bien, par exemple, que j'avais aucune flexibilité, tous ces trucs-là. Donc, la petite madame que tu vois sur son tapis dans les magazines, ça n'a jamais été mon combat de toute façon. Mais même si j'avais suivi différents cours de yoga, je me souviens du premier cours que j'ai fait avec toi, même si intérieurement, je ne me mettais aucun jugement, c'était vraiment la première fois que je me disais, OK, là, j'ai vraiment aucun jugement. T'sais? Je trouve que c'est vraiment une approche qui te caractérise. Puis quand tu dis que toi-même, tu remets en question, puis on pourrait parler justement des questions un petit peu plus deep après, là. Mais même au niveau de la posture de base, je trouve que tu es très inspirante par rapport à l'ouverture que les gens peuvent prendre. Tu sais, souvent, tu vas offrir, je sais que tu dis toujours qu'un bon prof de yoga va t'offrir différentes possibilités, mais je trouve que toi, tu l'ouvres encore plus. Pourquoi c'est si important pour toi? Puis qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui commencent? Parce que même si le yoga, c'est devenu quand même une pratique qui est très courante, qui est de plus en plus prisée, populaire, je trouve qu'il y a encore énormément de gens à qui je vais en parler qui vont avoir cette notion de performance. Puis là, tu sais un peu où je veux aller après avec ça. Mais qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui commencent le yoga ou qui voudraient se faire encore plus de bien, encore prendre plus possession de leur corps, de leur mouvement, de leurs possibilités?
C'est une bonne question. Si la personne a envie d'aller faire des cours en studio, bien, je dirais d'essayer plusieurs profs, puis de trouver un ou une prof avec laquelle ils se sentent vraiment à l'aise puis confortable. T'sais, justement, je trouve que des fois, il y a quand même une certaine hypocrisie qui est probablement pas consciente là, de la part de plusieurs professeurs ou plusieurs écoles lignées de yoga. Justement, qu'on va prôner le non-jugement et la douceur et tout ça, mais tout ce qu'on voit, c'est des photos de postures super avancées qui sont inaccessibles au commun des mortels.
C'est sûr que moi,
quand j'ai commencé le yoga, j'avais de la misère à bouger, le point. Fait que moi, même dans ma formation, quand on apprenait des postures, moi, je faisais toutes les modifications parce que la version déployée ou développée de la posture n'était pas du tout accessible pour moi. Fait que c'est sûr que... ces outils-là sont restés plus clairement en moi parce que je les ai expérimentés dans mon corps. T'sais. Puis, une autre chose, tu disais le côté avocate, là, mais moi, le côté avocate dans mes cours, puis mon obsession, en fait, c'est le choix des mots, le poids des mots. Puis, il y a beaucoup de profs qui ne sont pas conscients de ça, puis c'est normal, là, c'est lourd là, de toujours examiner les mots que tu utilises. Là. Moi, dans ma tête, c'est lourd, mais c'est important de ne pas dire... aller toucher vos pieds avec vos mains, t'sais, c'est plus envoyer vos mains vers le sol. T'sais, une direction plutôt qu'un objectif, parce que si tu donnes un objectif précis, la personne va tout de suite se mettre en situation d'échec. T'sais. Aussitôt qu'elle n'est pas capable, elle ne se sent pas bonne. Versus que si c'est une direction, ben là, le spectre des possibles est beaucoup plus grand. T'sais.
C'est fou t'sais, ce que tu dis, c'est totalement ça.
Puis de plus en plus, t'sais, j'ai fait des workshops, notamment avec Donna Farry, qui est une professeure d'expérience que j'admire énormément, puis qui a une éthique, selon moi, irréprochable, mais en tout cas, de ce que j'en sais. On ne sait jamais, hein, dans les temps qui courent, il n'y a plus grand-chose qu'on pense qui est vrai. Mais bref, c'est vraiment l'approche de remettre le pouvoir dans les mains des gens puis de proposer de plus en plus des explorations plutôt que justement des postures fixes ou des choses vraiment plus... de moins dire quoi faire, mais de proposer aux gens d'expérimenter ou d'explorer différentes choses dans leur corps pour eux trouver puis juger de qu'est-ce qui est bon pour eux puis qu'est-ce qui est... fun pour eux, puis qu'est-ce qu'ils sentent qui leur fait du bien, puis qui les fait grandir puis évoluer. Puis c'est que, tu sais, ça part du tapis, là, ça part dans le cours de yoga, mais après ça, la personne qui est capable de prendre une décision pour elle-même dans son cours, bien, elle va peut-être être plus capable de prendre une décision pour elle-même puis de s'affirmer à l'extérieur de son cours.
Mmh. Non, puis je fais la même chose en chant, tu sais, souvent... Je vais déconstruire totalement une chanson au point où on va arriver à, par exemple, un exercice que je fais faire très souvent qui fait réagir, c'est « OK, chante-moi ce couplet-là, mais enlève toutes les consonnes. » Puis là, les gens sont comme « Par où je commence? » Puis c'est comme, dans le fond, le chant, c'est une succession d'articulations, finalement. Puis là, on peut aller vraiment plus loin avec le langage puis tout ça, puis les langues anciennes pour découvrir un petit peu comment l'humain s'est mis à articuler. Mais c'est un petit peu la même chose avec le mouvement. Puis c'est là où je trouve que la voix et le yoga se rejoignent tellement, puis c'est pour cette raison-là que je te reçois aujourd'hui. Mais est-ce que tu sens, parce que moi, je le sens souvent chez les chanteurs, mais que les gens, quand ils n'ont pas de cadre, ils ne savent pas quoi faire, puis ils n'osent pas.
Tellement. Puis là, de plus en plus, avec mon approche, comme je te dis, qui se raffine ou qui s'ouvre de plus en plus à me détacher des postures de yoga un peu plus classiques pour proposer des explorations plus somatiques ou quoi que ce soit, les gens, ils regardent partout, puis ils sont pas sûrs. Puis là, d'où l'importance, moi, je le nomme beaucoup, tu sais, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon ici. C'est une exploration. Faites confiance à votre sagesse intérieure, à la sagesse de votre corps. Mais effectivement, on est tellement habitués d'être encadrés puis de se faire dire quoi faire.
On en veut des règles, j'ai l'impression. Ouais. Mes élèves me regardent en voulant dire « Non, mais je suis venue ici pour que tu m'apprennes quelque chose. » Puis je suis comme « Je suis justement en train de t'apprendre quelque chose de primordial. »
Exact, exact.
Mais c'est, vraiment. C'est... Puis qu'est-ce que tu conseilles au niveau des mouvements? Encore là, tu sais, je sais que c'est beaucoup dans les mots et tout ça, mais je m'inspire un peu de ce que tu me dis parce que je trouve ça tellement intéressant. C'est tellement vague. Qu'est-ce que... Mettons quelqu'un qui arrive, tu lui dis... tu lui donnes des... Bon, je vais prendre le champ, mais parce que mon vocabulaire de yoga n'est pas assez développé, mais justement, je lui dis, OK, je veux que tu me fasses une improvisation, mais que tu n'utilises aucun mot. Puis il me regarde, puis c'est comme... ben je dis quoi?
Ah oui, c'est stressant. Comment?
Mm-hmm. C'est comme, puis, tu sais, tu dis c'est stressant. Pourquoi c'est stressant? Qu'est-ce qu'il y a de stressant là-dedans? Tu sais, mettons.
Bien, parce que c'est la vulnérabilité.
C'est l'inconnu, dans le fond.
Oui, mais c'est la vulnérabilité aussi. C'est de dire, oh mon Dieu, là, il faut vraiment que je produise quelque chose qui vient juste de moi, que je dois assumer totalement, puis dont je suis la seule personne responsable, tu sais. Fait que je m'expose tellement au regard de l'autre et au jugement de l'autre, à quelque part, puis à mon propre jugement envers moi-même. Moi, c'est sûr qu'au niveau du mouvement, il y a quand même des paramètres, là, tu sais, je dis pas « faites n'importe quoi », là, il y a quand même, tu sais, c'est un cours, mais sauf que ça va être un mouvement, mais après ça, la personne, tu sais, par exemple, c'est en posture à quatre pattes, souvent, on va dire, tu sais, le Q classique, là, c'est les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, tu sais, dos long. Mais moi, je veux dire, de plus en plus, puis tu sais, je l'ai dit longtemps, là, ça, puis c'est pas mauvais, puis je le dis encore, puis c'est juste une autre approche, c'est une autre lunette, c'est pas mauvais de faire l'autre, là, mais là, c'est quelque chose que moi, je trippe à faire ces temps-ci, c'est de sortir de ce cadre-là. Mais c'est ça, de dire à la personne, bien, explorez, si vous mettez vos mains un petit peu plus larges ou un petit peu plus rapprochées, tu sais, où est-ce que ça fait du sens pour vous, puis sans dire c'est où exactement qui devrait être, tu sais. Parce que je suis pas dans le corps de la personne, puis on est toutes faites différentes, fait que ça se peut que la personne, pour elle, ça soit mieux de mettre un petit peu plus large, ça se peut qu'elle ait un problème de poignet, puis ça soit beaucoup plus confortable pour elle de faire ça. Mais au lieu de lui dire, puis de lui donner la modification, bien là, ça vient d'elle. Fait qu'elle a gagné trois choses. Au lieu de gagner juste la modification, elle a gagné la capacité de s'interroger, puis d'explorer, la confiance en son propre jugement, puis en sa propre intelligence, puis la modification qui fait qu'il est confortable dans son corps. Fait que c'est comme vraiment plus puissant pour moi, surtout quand on parle d'amener le yoga à l'extérieur du tapis, là, pour moi, c'est vraiment, c'est comme... Moi, je vois ça, t'sais, je vais dire un gros mot, mais je vois ça comme un outil, tu sais, d'empuissancement féministe, là, vraiment, de plus en plus. Puis ça me réconcilie parce que... Là, je sors un peu de notre sujet.
Non, mais j'aime ça, tu vois. Que, c'est parfait.
Dans les derniers mois, puis depuis longtemps, mais tu sais, il y a eu toutes les mouvements de dénonciation, d'agression, mais il y en a beaucoup des abus dans le monde du yoga, puis pas juste ailleurs, tu sais, ici aussi.
Mais ça, ça fait partie des carcans, justement, parce qu'on se dit, oh non, mais le yoga, c'est le bien-être, c'est bien, c'est la paix intérieure, ta-ta-ta. Automatiquement, c'est comme si c'était ça l'étiquette. C'est un peu comme ce que tu disais.
Oui, fait que là, ça
donne... Moi, je suis malade, donc je suis rien d'autre. Mais c'est un peu comme le yoga, c'est le bien-être et la paix intérieure. C'est rien d'autre. Mais arrêtons de dire ça.
C'est comme impossible qu'il y ait des choses mauvaises qui se passent dans ce milieu-là parce que c'est love and light, là. Mais non, c'est pas vrai. C'est un milieu comme un autre. Puis, tu sais, même comment c'est construit, la plupart des écoles, tu sais, dites traditionnelles, là, tu sais, qui sont de maître à élève, plus ancestrales, si on peut dire, bien, ça reste que c'est un modèle qui est très patriarcal. Il y a quelqu'un qui se positionne en maître, qui sait mieux que toi quoi faire, puis qui te dit quoi faire. Mm-hmm. Puis c'est pas toutes les écoles, là, mais dans ce type de modèle-là, il y a une dynamique, en fait, qui n'encourage pas du tout l'élève à remettre en question les enseignements, mm-hmm. qui sont considérés comme sacrés, alors que quand on cherche puis qu'on pousse un peu plus, il y a très peu de choses qui remontent à des millénaires, là. La plupart des postures de yoga puis des séquences de yoga, de ce que moi j'ai lu, puis je m'intéresse à ça depuis quand même plusieurs mois, ça remonte à un maximum 100 ans, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est pas vrai que c'est passé à l'épreuve du temps et tout ça. Puis même à ça, dans la philosophie du yoga, il y a de développer notre propre capacité de discernement, mm-hmm. d'être capable de changer d'idée si on découvre... Tu sais, il y a la recherche de la vérité, là, un peu comme avec la science, que quand on découvre quelque chose qui invalide un savoir qu'on avait avant, bien... c'est la nouvelle connaissance, puis c'est correct, tu sais. Fait que non, moi, je suis pas d'accord qu'on n'aurait pas le droit d'explorer ou de changer nos façons de faire, tu sais, dans le milieu du yoga. Mm-hmm. Puis que ça serait plus du yoga, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'il y a, t'sais, il y a quand même, il faut définir c'est quoi pour nous le yoga, mais je pense pas qu'on est figé dans un vieux modèle. Hein,
non, puis même à partir de là, à quelque part, puis je reviens encore, j'aime bien faire des parallèles parce que j'en fais toujours plein, puis là, ça me donne une occasion d'en parler. Mm-hmm. Par rapport à la voix, c'est un peu pareil avec l'opéra, par exemple. Il y a une manière de chanter, la posture super carrée avec l'articulation d'une telle façon, puis la respiration d'une autre. À un moment donné, c'est comme moi, dans la vie, j'ai besoin d'aller faire du jazz un peu, là, ouais. Pour lousser ça, puis de me dire qu'il n'existe pas de fausses notes, finalement. T'sais. C'est comme si, quand tu es habitué de lire une partition, ben c'est ça qui est écrit, puis c'est ça qui est là depuis 400 ans, c'est comme ça que tu dois chanter le truc.
Puis sûrement que tu respirais mieux d'être après d'aller faire du jazz, parce que tu es devenu plus souple.
Oui, puis on ne bouge pas de la même façon qu'en 1600. On ne s'habille pas, les femmes, encore une fois, surtout. En plus, il y a plein de choses, tu dis, ben oui, pourquoi tu penses qu'il fallait qu'ils respirent de cette façon-là? Il y avait des corsets, tu sais, tu viens de mettre le doigt dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, je devrais respirer de même? Pense pas, tu sais. Fait que c'est un petit peu, je trouve, des combats qui se ressemblent et qui sont super pertinents. Puis là, si on revient un petit peu à ce dont on parlait, à tout ce qui se passe actuellement, bon, beaucoup sur les réseaux sociaux, dans notre société en général, il y a beaucoup de trucs qui brassent. Toi, tu es quelqu'un qui fait déjà naturellement, qui aime brasser les choses, qui aime creuser dans le fin fond des sujets. Je vais te poser une question pour l'intellectuel que tu es. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en mode « je vais m'éduquer, ok, je vais prendre un pas derrière, puis je vais prendre le temps de penser. » Puis même moi, tu sais, il y a des choses que instinctivement, j'avais telle réaction, puis je me disais « non, attends, prends un break, analyse s'il n'y aurait pas une autre réaction possible. » Puis je trouve ça intéressant, est-ce que tu as des lectures, des pages Facebook, des références de gens à suivre qui peuvent aller nous ouvrir les yeux pour ceux qui s'intéressent. J'imagine que ce que tu vas me dire, ce n'est pas nécessairement des sujets qui sont faciles, mais je sais que tu lis des trucs très intéressants, puis je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui en parlent, donc j'ai envie d'utiliser la lumière que tu es pour nous éclairer un petit peu dans cette région un petit peu plus sombre.
Bien, là, il y a un livre que j'ai lu dans les derniers mois, puis en fait, que je travaille encore à terminer de lire, pas parce qu'il est très long, mais parce qu'il est comme quand même lourd, puis c'est un sujet vraiment lourd, dans le fond, qui parle des abus dans le milieu du yoga, puis plus particulièrement dans la lignée traditionnelle de yoga Ashtanga, qui était enseignée par Patavi Joyce. C'est le livre, l'auteur, c'est un auteur canadien qui s'appelle Matthew Remsky, puis le livre, c'est « Practice and All is Coming, Abuse, Cult Dynamics and Healing in Yoga and Beyond ». Puis c'est un survivant de secte, Matthew Remsky, donc il a c'est aussi un académique là, qui étudie les dynamiques sectaires, puis il utilise cette lampe-là, cette lentille-là pour analyser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait en sorte que dans une lignée comme ça, ça a pu se produire, des abus qui sont des abus de pouvoir, des abus physiques, des abus sexuels par une seule et même personne, puis quand on lit le livre, on se rend compte que c'est incroyable le nombre d'agression, mais il ne fait pas juste le dénoncer, t'sais, il veut vraiment aller en profondeur, t'sais, il y a des témoignages de certaines victimes, puis ça, c'est des choses qui étaient sorties un peu sur Internet puis dans les médias il y a quelques années, là, avant son livre, mais ça a été très dur pour les victimes de sortir ces témoignages-là parce que, justement, il y a toute une communauté autour d'eux qui essaie de les étouffer puis de faire en sorte qu'elles ne soient pas crédibles. C'est vraiment intéressant parce qu'on comprend qu'est-ce qui... pas juste la responsabilité de la personne qui commet les agressions, mais la responsabilité de tous les gens qui sont autour puis qui dénoncent pas. Mais ça explique aussi dans la psychologie de ces gens-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens-là acceptent des comportements inacceptables? Et en fait, toute la dynamique du groupe qui met le gourou, le maître sur un piédestal, toute l'espèce de réalité qui se bâtit autour de ça, qui existe un peu en dehors de la... du monde normal, si on peut dire, là, qui fait qu'il y a des comportements qu'on jugerait totalement inacceptables dans d'autres milieux, sont rendus acceptables dans des milieux de yoga comme ça, sous prétexte que le gourou sait mieux. Et le gourou est un être ultimement bienveillant qui ne peut pas te vouloir de mal, qui ne peut pas avoir autre chose que des intentions pures. Mais alors qu'on est tous humains, tu sais... Et on n'a pas tous juste des intentions pures. Fait que c'est vraiment intéressant pour essayer de déconstruire ça, mais c'est très challengeant parce que ça nous remet, nous, OK, est-ce qu'il y a des moments dans des classes puis des choses pas aussi extrêmes que ça, mais c'est une pente glissante. Hein, fait que ça commence par un prof peut-être qui est un petit peu trop imbu de lui-même ou qui va se permettre certains commentaires ou justement qui ne va pas utiliser toujours un langage ou des mots qui sont appropriés ou qui sont inclusifs ou whatever, vraiment. Fait que ça, c'est des grosses réflexions, moi, que ça soulève chez moi. Beaucoup de colère aussi, puis de dégoût là, par rapport au yoga. Puis vraiment, comme je disais, ça ne me tentait plus de pratiquer puisque j'avais l'impression que cette pratique-là, qui était pour moi un cadeau, était en fait bâtie sur une pile de mensonges, puis d'abus, puis de femmes comme moi qui ont été abusées, mettons. Fait que j'étais complètement dégoûtée. Mais là, en ayant une approche différente, puis une lentille plus féministe, comme je disais, avec les workshops que j'ai fait avec Donna Farry. D'ailleurs, sa page Facebook à Donna Farry, on pourra mettre peut-être le lien.
Oui, je vais mettre tous les liens, en fait.
Vraiment intéressant, parce que c'est une femme, je trouve, qui est très posée, très intelligente, mais très assumée dans ses positions. Donc, puis elle a des années d'analyse, puis elle se remet tout le temps en question. Fait que je trouve qu'elle fait des longs posts Facebook où elle va donner son opinion sur certaines choses ou juste présenter certaines situations ou certaines postures, certains mouvements de yoga différemment avec une espèce de lentille un peu féministe, sans se dire nécessairement elle-même féministe. Là. Mais moi, je trouve que ça transparaît. Vraiment, vraiment intéressant.
Oui, puis j'aimais aussi, tu sais, tantôt, Aaron, tu me disais, c'est difficile de dénoncer, puis on l'entend beaucoup aussi de ces temps-ci, parce que ça chamboule ton mode de vie au complet, en fait. Puis c'est ça qui devient une montagne de cause à effet, finalement, qui fait boule de neige, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est important, je pense, d'en parler. Puis c'est un petit peu, puis j'arrête pas de faire des parallèles en musique, mais c'est un petit peu ça aussi le sujet du podcast. Mais souvent, on a un prof de chant, puis bon, il va se passer des trucs, parce que nous aussi, c'est beaucoup le corps, puis justement, des replacements de position tout à fait louches. Moi, je me rappellerai toujours d'un prof avec qui j'avais suivi un masterclass. J'étais sortie de là, fâchée, là, genre, moi, j'étais comme, non, moi, je me ferai pas enseigner de même, il n'y en a pas question, nanana. C'était comme, c'est justement un masterclass. Fait que là, je reviens avec ma prof après, j'ai dit, en tout cas, moi, je veux plus jamais que tu m'envoies là, je vais plus le voir, ce monsieur-là, je suis vraiment pas à l'aise, tatata. Puis elle, de me répondre, non, mais la chance que tu avais qu'il t'accueille chez lui, tu sais. Comment oses-tu?
Non, non.
Mais c'est incroyable parce que c'est cette culture-là actuellement qu'on cherche à débattir. Puis c'est pour ça que c'est intéressant d'aller lire ces trucs-là. Puis effectivement, ça doit être abominable. Tu sais, moi-même, je te disais tantôt, oh my God, j'aurais de la misère à lire ça en ce moment. Tu sais, je ne vais pas assez bien.
Mais comme je te dis, moi, ça fait plusieurs mois que je le lis. Là. C'est un livre, gars, je l'ai devant moi. Là. Il y a comme, tu sais, ben, à peu près 300 pages. Mais je lisais comme 4 pages par jour, là, parce que d'une part, parce que pour moi, c'est vraiment important de bien comprendre puis de bien l'assimiler, mais aussi parce que c'est lourd, puis il faut penser à nous aussi, demander là-dedans. Là, comme faut être... pis, c'est bien parce qu'il dit dans le début du livre, il y a comme une petite boîte à outils de self-care au début du livre. Il dit que comment prendre soin de soi en lisant ce livre-là. Puis ça l'inclut, des fois, le mettre de côté pendant un mois puis pas être touché. Puis il y a des ressources, puis appeler tes amis puis en parler. Puis, fait que je trouve que c'est un livre vraiment bienveillant, même s'il est très incisif et très challengeant. Puis sa page Facebook aussi à Matthew Rimsky est assez intéressante. Il est constamment en train de remettre des choses en question. Parfois, ça peut... Il est très polarisé, là. Dans le fond, ça peut paraître... Il y a beaucoup de gens qui le détestent, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il va beaucoup trop loin.
Mais comme n'importe qui émet son opinion de manière franche.
Oui, puis c'est sûr que lui, de par son vécu, tu sais, il y a des choses sur lesquelles il est très tranchant, parce que lui, il l'a vécu, puis tu sais, c'est inacceptable. Mais c'est bon, pour justement, de lire ça pour se remettre en question. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il dit. Même chose avec n'importe qui, en fait. Puis c'est sûr que la plupart des ressources que je mentionne sont en anglais, parce que malheureusement, il n'y a pas... tant de choses encore dans ces eaux-là en français. Peut-être que ça viendra. Peut-être de moi. Ah ouais, c'est ça, je sais pas. J'essaie d'en mettre des fois des réflexions sur ma page, puis j'ai l'intention d'en mettre un peu plus aussi dans les prochains temps.
Oui, mais je mets d'ailleurs aussi ta page. C'est pas pour rien que je te reçois. Je trouve que c'est important d'avoir des gens comme toi.
Puis sur une note plus de diversité aussi, il y a l'organisme américain Accessible Yoga qui qui partagent souvent, bien, ils ont plusieurs partenaires, en fait, et tout ça. Eux autres, ils font la promotion d'un yoga qui est inclusif, puis qui est adapté à tous les types de corps. Fait que il y a beaucoup, ils reçoivent sur leur blog beaucoup de professeurs invités ou d'experts invités qui vont donner leur opinion, qui vont donner des séquences, des modifications de posture. Fait que c'est vraiment cool, ça nous fait voir les choses différemment. Puis, ils ont beaucoup travaillé, tu sais, à la base, c'était beaucoup sur la diversité corporelle, les handicaps et tout ça, les limitations. Puis maintenant, avec le mouvement Black Lives Matter, ils ont beaucoup d'articles récemment sur l'intersectionnalité, sur la race, sur comment être inclusif aussi des personnes de couleur. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Moi, c'est un sujet sur lequel je m'éduque, mais que je me sens encore un peu démunie par rapport à ça. Fait que ça, c'est un bel outil pour moi puis pour tout le monde, je pense.
Mm-hmm. C'est tellement important, puis on a de la chance, je pense, en fait, d'être, malgré toutes les difficultés que ça apporte, de se retrouver dans ce milieu-là, tu sais, où on a des outils, on a des accès, puis c'est le moment de le prendre, ce temps-là, puis de le prendre, ce recul-là, puis de prendre le temps de se poser des questions, puis j'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui se mettent la tête dans le sable, tu sais, Des fois, c'est ça qui est dur.
Mais c'est confrontant. Je veux dire, moi, lire le livre là, sur les abus dans le yoga, puis tout, puis il y a des articles aussi sur Internet, là, si on cherche sur Google, c'est pas bien long, il y en a plein qui sortent, puis même ici au Québec. Là. Puis, je veux dire, je lis ça, puis je pleure. Je suis fâchée, puis je pleure, puis j'essaie de prendre le temps de le vivre. Mais après, tu sais, souvent, il y a des réactions que ça va être, ah, mais, mettons, cette personne-là qui a commis des abus, mais c'était pas un vrai yogi. Ou, tu sais, c'est pas du yoga, on se dissocie de ça parce que le vrai yoga ne permettrait pas ça. Mais la vérité, c'est que ça se produit dans le monde du yoga. Fait que qu'est-ce que moi, je contribue, qu'est-ce que moi j'ai fait ou je n'ai pas fait pour faire en sorte que ça puisse arriver? C'est pas moi qui ai commis un abus, là. Mais est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire pour que ça arrive pas? Ou pour diminuer les risques que ça arrive, pour que les gens à qui ça arrive se sentent à l'aise de dénoncer. Puis ça passe par notamment des codes d'éthique solides dans les studios, puis qu'ils soient appliqués. Puis c'est une opinion assez impopulaire, mais moi, je pense que le milieu du yoga devrait se professionnaliser. Là, c'est rendu tellement populaire, puis il y a tellement de... Tu sais, même il y a des médecins qui vont envoyer les gens faire du yoga, il y a des psychologues qui vont envoyer les gens faire du yoga, mais la formation, les accréditations sont tellement inégales que, tu sais, il n'y a pas de recours, là. On ne peut pas se plaindre d'un prof, bien, à part aller en cours un recours civil, là, mais je veux dire, il n'y a pas d'organisme, il n'y a rien qui supervise tant que ça. Il y a des associations qui existent, mais c'est pas comme des ordres, mettons, des ordres professionnels, ou c'est pas... Il n'y a pas des normes gouvernementales. Fait que moi, je pense que ça serait une des options pour assurer plus la sécurité du public.
Mm-hmm. C'est sûr. En plus que le public s'éduque le plus possible.
Oui, bien
par
oui.
Même, comme tu le disais, une recherche Google, tu sais, je sais pas par où commencer, tape un mot dans Google, tu sais.
Et puis je pense que, tu sais, mon message le plus important par rapport à ça, individuellement, mettons, c'est que chaque personne soit consciente qu'il y a personne d'autre que eux qui peuvent savoir qu'est-ce qui est bon pour eux dans le yoga. Puis si une pratique ne te plaît pas ou ne te fait pas du bien, puis là, il y a toujours la ligne, tu sais, des fois, il faut aller dans notre sortir de notre zone de confort quand même. Mais si quelque chose te met profondément mal à l'aise, qu'un prof te met profondément mal à l'aise, que tu te sens heurté, brimé, blessé, comme tu n'es pas obligé de faire. Tu n'es pas obligé de rien faire de ce qui est proposé dans une classe de yoga. Tu peux décider de faire complètement autre chose. Puis si le prof réagit mal, là, c'est parce que lui, il est trop dans son égo.
Mm-hmm. Non, puis c'est la même chose dans tout. Tu sais, généralement quand même, oui, effectivement, il y a la ligne de faire attention là, par rapport à, bon, faut que tu te prêtes à certains jeux pour pouvoir avancer dans la vie, mais tu le sais, c'est quand que c'est pas sain, puis que t'es pas bien.
Oui, bien, en fait, là, parce que je me suis comme entendue parler en le disant, loin de moi, l'idée de blâmer les victimes, c'est vraiment, vraiment pas ça. Mm-hmm. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous avez le droit de quitter, vous avez le droit de faire autre chose. Vous avez le droit de dénoncer, vous n'avez pas le devoir de le faire non plus. C'est vraiment, je ne veux pas que mes propos soient mal perçus. Là.
Mais je pense qu'on comprend.
Puis en fait, c'est un message aussi pour les profs. T'sais, vous ne savez pas mieux que quelqu'un d'autre qu'est-ce qui est bon pour elle. Vous ne savez pas mieux.
Puis, au moindre doute de poser des questions aussi. T'sais, des fois, comme tu dis, toi-même, malgré le fait que tu sois quelqu'un qui essaie beaucoup de s'éduquer, pour qui les mots, chaque mot est important, de peser tout, ça se peut que tu en commettes une erreur, puis qu'à un moment donné, tu blesses quelqu'un, mais juste au départ aussi d'en parler, que ce soit ouvert, puis qu'on hésite le moins possible de le faire.
Ben oui, puis c'est vraiment, ça, c'est un gros exercice de mettre son ego de côté. Puis c'est là que ça devient épeurant d'avoir une approche qui est différente, qui est plus exploratoire, parce qu'on ne dit pas à l'élève, OK, voici, tu fais ça, 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 puis c'est ça la séquence, puis on ne peut pas en sortir. C'est sécurisant, ce cadre-là, pour le prof aussi. Mm-hmm. Tandis que quand tu donnes des pistes d'exploration, il peut y avoir n'importe quoi qui va sortir. Fait que toi, peut-être tu n'auras pas de réponse au questionnement de l'élève, mais c'est correct. C'est correct de dire que tu ne le sais pas. C'est correct de dire, je vais aller m'informer. C'est tout à fait correct, mais c'est inconfortable. Puis moi, ça m'est déjà arrivé dans une classe, si je donnais une classe de yoga adaptée, puis c'était une de mes premières fois, puis pour moi, c'était vraiment important, mais malheureusement, le groupe était très de niveau, plusieurs niveaux différents, en fait, dans le groupe. Puis le cours que j'ai donné était plus adapté aux gens qui étaient de niveau un petit peu plus élevé, si on peut dire, ou qui avaient moins de limitations. Parce que ces gens-là avaient été un peu plus vocaux dans le cours, puis ils me disaient comme que c'était plate, qu'est-ce que je faisais. Fait que là, sur le coup, je voulais plaire. Fait que là, j'ai comme fait quelque chose d'un petit peu plus exigeant. Mais après, il y a une personne qui est venue me voir, puis elle m'a dit qu'elle s'était sentie exclue, puis elle était fâchée, mm-hmm. puis elle était triste. Puis ben, ça m'a fait mal. T'sais, je l'ai reçue, là. J'ai dit, aïe, merci de me le dire. Puis tu sais, comme bravo de me l'avoir dit, puis je suis vraiment désolée. Puis t'as raison. Mais ça, j'ai pas dormi pendant 2 jours après, là, je me sentais mal, sauf que c'est vrai que j'avais failli à ma tâche.
Oui, puis en même temps, c'est un exercice à faire parce que justement, si tu avais un programme tout décrit avec un, nous allons faire ça, telle posture, ensuite deux, ça, 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 bien là, les gens, ils vont s'inscrire et là, ils sont dans leur confort, ils regardent, oh non, ça, c'est pas pour moi, bonsoir. Mais en étant dans un cours qui est plus ouvert, c'est un petit peu la même chose, je reviens encore à mon chant, quand j'enseigne le chant sur des classes, bon, de gens qui viennent faire juste un atelier d'un jour, par exemple, j'en ai un peu de tout niveau. Puis c'est ça, c'est le fait que tu prennes cette liberté de donner de la liberté puis de te faire un programme qui soit bâti selon tes convictions à toi, qui soit pas, tu comprends ce que je veux dire, pas décrit ligne par ligne, ça crée aussi un peu cette danger-là. Fait que c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant quand les gens s'expriment. Puis oui, en tant que nouveau prof, ça peut être blessant, mais je suis certaine que maintenant, on te dirait ça, puis tu le prendrais, puis ça serait... Tu le prendrais dans la gratitude, pratiquement.
Mais ça fait pas longtemps, ça m'est arrivé l'année passée, tu sais, ouais. Puis... Non, mais j'étais contente qu'elle me le dise, mais ça m'a fait mal.
Ouais.
Puis j'étais déçue de moi. Mais je peux te dire que toutes les autres fois que j'ai donné ce cours-là, j'étais préparée en temps. Puis j'avais des modifications, genre pour 5 types de limitations, puis... Puis cette personne-là n'est jamais revenue parce qu'elle s'était sentie exclue. Mais à chaque fois, je me préparais comme si elle était pour être là.
Ouais.
Fait que ça a fait de moi qu'il y a un meilleur prof. Mm-hmm. Tu sais, alors mais que j'aurais pu juste faire... Mais j'aurais pu faire... Ah oh, ben là, à capote, tu sais, puis juste comme balayer ça du revers de la main puis jamais repenser. Ben non, pour moi, c'était vraiment important d'être inclusive. Puis cette personne-là me dit que j'avais pas été inclusive. Fait que j'ai changé, tu sais. J'essaie de m'améliorer. Puis je pense que ça aussi, ça fait partie du cheminement, ben, de croissance personnelle, mais du yoga aussi, de chercher à être comme la meilleure personne qu'on peut être, puis de s'accepter en même temps où ce qu'on est en ce moment.
C'est, je pense que ça résume, puis c'est vraiment le point central, en fait. Que ce soit dans votre pratique, ou dans l'enseignement, ou dans tout, c'est juste de remettre les choses en question, de prendre le temps de s'accorder nos pensées, de ne pas juste se fier au regard des autres, puis il va se passer ça si je dis telle affaire. Puis je pense que c'est pour tous les domaines.
Mm-hmm.
Je trouve ça super mm-hmm. intéressant. Puis je voudrais quand même, parce que bon, le sujet du podcast.
Qu'on parle un peu de chant.
c'est la voix. Je savais qu'on sortirait un petit peu là, du sentier principal.
Mais la voix, c'est aussi être capable de dire ce qu'on pense. Tu sais. C'est ben pas oui. juste le chant, c'est d'utiliser pour ça que... notre voix.
Exact. Puis je t'ai déjà coupé à quelques endroits parce que j'étais comme oh! Tu sais, il y a plein d'endroits où je pourrais faire des parallèles. Puis là, j'hésite entre est-ce que je vais faire écouter cet épisode-là à certains de mes élèves puis parler ou je vais carrément faire un épisode de podcast sur des liens avec celui-ci. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que la voix, c'est le corps aussi. Donc, il y a encore plus de trucs qui s'entrecoupent. Mais je veux qu'on parle du fait que, bon, le moment où on s'est connus, mis à part l'école secondaire où on ne se parlait pas vraiment, mais c'est à un moment, j'ai approché André-Claude, qui est celui qui a fondé Origine Yoga chez qui tu travailles, pour donner des... En fait, donner mes services de pianiste pour les cours de yoga. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais je me rappelle plus trop comment c'était venu sur le sujet. Mais bref, on s'est rencontrés parce que tu donnais le cours que j'accompagnais au piano. Oui. Puis moi, ce qui a été une révélation pour moi, c'est qu'à un moment donné, on s'en doute pas, mais c'est à la toute fin de la session, moi j'arrête de jouer parce que je trouve que le silence est super important à certains moments. Et là, Audrey-Anne se met à chanter. Et là, moi, prof de chant, chanteuse depuis toujours, tripeuse de voix humaine, je fais comme « Oh my God, qu'est-ce que cette voix? C'est quoi? » Puis je sentais aussi à quel point les gens étaient touchés par le thème de ta voix. Évidemment, une voix, c'est porteur de toute notre histoire. Donc, tout ce qu'on vient d'évoquer, il y a un lien avec ta voix. Ça porte toute cette fragilité, mais en même temps, toute cette force que tu as. Pourquoi chantes-tu? Je sais que depuis quelque temps, en plus, tu l'assumes de plus en plus. Mais en fait, allons-y avec la base. Pourquoi la voix?
Bien... Moi, j'ai toujours aimé chanter. Là. C'est drôle, j'ai eu cette réalisation-là quand même récemment, mais que j'essaie de me rappeler quand j'étais petite, mais je chantais souvent, pas nécessairement pour faire mon show, là, mais juste, notamment quand j'avais peur, je me chantais des chansons. T'sais, j'ai vraiment des images mentales de moi, genre sur une piste de ski trop difficile, que je me chante, genre dans ma cagoule. Puis après ça, mettons plus adolescente, ben là, tu sais, j'aimais ça vraiment chanter beaucoup dans ma chambre. Puis mes amis savaient que mon rêve, c'était de faire des cours de chant. Puis je me souviens qu'en secondaire 5, j'avais une amie qui avait organisé ça, puis toutes mes amies, puis ma famille avaient toutes contribué, genre 5-10 piastres chaque, pour me payer une session de cours de chant. Ça, c'était vraiment comme cool. Je me disais, ah, les gens autour de moi trouvent que je devrais comme...
Non, mais je vous dis, elle chante vraiment bien.
Soit qu'ils trouvaient que je chantais vraiment mal ou qu'ils voulaient m'encourager dans ma passion, tu sais, que j'aimais beaucoup chanter. Fait que j'ai fait une session, mais ça s'est pas poursuivi après. Parce que je faisais autre chose, mais j'ai toujours continué à chanter. Puis quand j'ai fait ma première formation de yoga... à l'Académie en soi avec Martine Bergeron. Elle, c'est aussi une artiste dans l'âme. C'est une professeure de yoga, mais très artistique aussi. Puis elle chante à la fin de ses cours. Puis j'avais trouvé ça tellement beau. Puis d'une façon qui n'est pas c'est pas un spectacle. C'est vraiment une offrande, en fait. Puis les premiers cours que j'ai donnés, c'est sûr que, bon, déjà, j'avais le stress de donner mes cours et tout ça, fait que je chantais pas. Mais quand même, assez rapidement, après quelques mois d'enseignement, là, j'ai trouvé le courage de m'exposer à la fin de mes cours puis de me mettre à chanter. Soit, des fois, juste des sons, des voyelles ou des mantras. Puis parfois même des phrases plus en français, là. Puis j'ai commencé ça, puis j'ai tellement eu de bons commentaires par rapport à ça, que j'ai jamais vraiment arrêté.
Mm-hmm. C'est un must du cours d'Audrey-Anne.
Ben sérieux, des fois ça m'arrive de pas chanter parce que ben mettons si ma voix est plus fatiguée ou si j'ai mal à la gorge ou juste comme justement c'est pas je le fais pas pour plaire, je le fais vraiment comme un cadeau qui vient de mon cœur. Fait que si je le sens pas, ben je le fais pas. Ce qui est quand même rare, mais ça l'arrive que des fois je suis comme ah non ça monte pas. Fait que si je le fais, ce sera pas aussi sincère puis justement je fais pas un show. Fait que je le fais pas, puis quand je le fais pas, les gens sont comme « Ah, oh, t'as pas chanté aujourd'hui! » Mais je l'explique, tu sais, je dis « Ah oh, non, je le sentais pas aujourd'hui, je suis plus fatiguée, tu sais, j'ai besoin de garder mon énergie plus pour moi. » Puis les gens sont comme « Ok! » Puis ça, c'est beau d'ailleurs, je trouve que quand tu mets tes limites clairement avec les gens, ça leur donne la permission de le faire eux autres aussi.
Ben exact! C'est ce que j'étais pour dire, c'est exactement ce que tu prônes, tu sais. Mm. C'est beau parce que t'es pas trop fait ce que je dis, mais pas ce que je fais.
Non, mais tu sais, je veux dire, pas dans toutes les sphères de ma vie, mais dans mes classes, ça, c'est quand même quelque chose que je suis assez fière, que je suis capable de nommer, puis de ouais, c'est ça, d'incarner. Puis pendant la pandémie, comme je disais, j'avais moins envie de faire du yoga parce que, pour plein de choses, mais j'étais stressée avec la gestion du studio, puis tout ça, fait qu'on dirait que c'était comme trop associé au stress, puis... j'avais pas de jus mental, fait que de trouver comme qu'est-ce qui serait bon comme pour moi, analyser ce serait comme mes besoins dans la pratique, je le faisais pas. Puis avec toutes les affaires d'abus aussi, j'étais un peu dégoûtée, fait que j'étais éloignée de ma pratique, mais je me sentais vraiment déconnectée. Puis il y a une amie qui m'a parlé de quelqu'un qui donnait une formation sur le chant de mantra. qui s'appelle William James Rochefort, qui sa page c'est Yoga Mage.
Puis, je le suis sur Patreon. Je
oui, c'est ça. Il fait des concerts méditatifs et tout. Puis, fait qu'il offrait une formation de 4 semaines sur le chant de mantra, dans le fond, 4 fois dans 4 séances de 2-3 heures. Puis j'ai décidé de m'inscrire parce que j'aime ça chanter. Puis j'ai toujours aussi des... Quand je dis que je remets toujours tout en question, mais quand je chante des mantras, j'ai toujours une petite crainte de « Ah, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Est-ce que je connais assez ça pour le chanter? » Fait que je me suis dit « Je vais faire une formation là-dessus. Au moins, ça va me donner d'autres outils pour analyser ça. » Malheureusement, ma réflexion là-dessus est toujours en construction.
C'est pas évident, pas fini. Hein? Non. On en a parlé un petit peu à un moment donné, puis depuis ce temps-là, je lis certaines choses, puis la ligne est mince, ouais. Tu sais? Parce que, en tout cas,
Mais ce que j'ai aimé, c'est que oui, on a chanté quelques mantras, mais c'était beaucoup un cours de chant, en fait, un cours de voix, puis d'apprendre à aimer sa voix, puis à l'exprimer. Fait qu'on a fait beaucoup d'exercices de respiration, de chant de voyelles, de visualisation et tout. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, je sais qu'il la donne sa formation de temps en temps, puis quand même, c'est une belle formation, là. C'est le fun, c'est tout en ligne. On peut l'écouter en live ou on peut le faire. Quand ça nous tente, là, quand ça nous convient.
Oui, puis il y a vraiment une belle approche, c'est ça. À cause de toi, j'ai commencé à suivre ce qu'il faisait, puis tout ça. Puis ça regroupe beaucoup mes ateliers de bien-être par la voix aussi, qui sont un petit peu le même principe. Mais tu sais, des fois, les gens sont comme « Oh non, mais tu sais, je vais prendre un atelier. » Mais si vous pouvez vous l'offrir, surtout des trucs en ligne, parce que vous pouvez le faire un peu n'importe quand dans votre horaire, mais essayez-en des trucs, parce que les possibilités de la voix sont tellement, tellement infinies. Puis juste de se faire dire les choses différemment. Tu sais, on parlait au tout début d'entrevue du fait que le premier truc que tu donnais pour les gens qui commençaient pour bien se respecter, puis tout ça, bien, c'était d'essayer plein de profs.
Ouais.
Mais faites-le. Fait que je trouve ça super intéressant que t'amènes William.
Fait qu'avec ça, dans le fond, je me suis vraiment, tu sais, je m'étais inscrite à la formation, c'était 4 semaines, puis là, je m'étais dit, ça va être ma pratique de bien-être. Ça va être ça, mon yoga, pour le mois. Fait que lui donnait des exercices, puis il recommandait de les faire à tous les jours. Puis pour vrai, comme pendant les 3 premières semaines, je les ai faites à tous les jours, mes exercices. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis vraiment sentie reconnectée, parce que le chant, même dans ses formes très basiques, là, c'est quelque chose qui nous amène vraiment... T'sais, on le sent tout de suite, là, c'est que ça nous fait décrocher de notre mental, mais tout en restant vraiment incarné dans notre corps, parce que c'est ça la caisse de résonance, là. Notre instrument, c'est notre corps. Fait qu'on est vraiment dans la matière, mais on est complètement décroché du mental. Puis moi, étant une personne qui analyse tout, vraiment à outrance, c'est dur pour moi de décrocher de mon mental. Fait que je pense que c'est pour ça que le chant, c'est quelque chose qui est un outil vraiment précieux pour moi. Puis même, c'est pas obligé d'être des mantras, là, ça peut être n'importe quoi. T'as des chansons que t'aimes souvent quand je fais mon ménage ou quand que je me sens trop stressée après une journée de travail, là, je mets de la musique puis je chante. Mm-hmm. Puis ça me fait décrocher, puis ça fait du bien. Fait que je trouve que c'est une belle façon aussi de reconnecter avec notre corps. Là, on est tellement déconnecté de notre corps, mais de juste faire l'exercice de chanter puis d'observer où est-ce qu'on ressent la vibration. Même si c'est juste une voyelle, c'est pas obligé d'être des paroles compliquées. Puis on est souvent comme dans le jugement, tu sais, on est gêné par rapport au son de notre voix, mais quand on le voit, encore une fois, comme un exercice exploratoire, puis qu'on s'intéresse plus à la vibration qu'au son qui est produit, ça devient vraiment intéressant. Puis c'est un outil pour mieux comprendre notre respiration aussi.
Tout à fait. Non, moi,
c'est vraiment cool. Ben là,
je rêvais juste de t'entendre dire ça pour que les gens arrêtent de dire que c'est juste moi qui passe sa vie à dire ça. Mais c'est exactement ça. C'est tellement important, c'est tellement... c'est basic, tu sais. C'est pas... Pour ressentir les bienfaits du chant, on n'a pas besoin de chanter juste. On n'a pas besoin de chanter des notes longues, des notes hautes. Il y a rien de ça, tu sais. Tu viens de nommer, tu sais, j'aurais pu te demander, bon, quel exercice suggères-tu aux gens pour commencer, nanana. Tu viens d'en nommer. Chanter en faisant son ménage. Arriver puis faire 2-3 voyelles suivies d'une respiration longue.
C'est pas dans un but de performance ou d'interpréter quelque chose.
Exact. Ou, tu sais, juste le fait de émettre une note en pleine conscience.
Ouais.
Juste en faisant comme, OK, là, je fais pas... That's it. Ça vient déjà... Tu viens de te rendre compte de tout ce que ça va faire. Puis là, je pourrais... faire une méga parenthèse, mais tu sais, ça vient d'utiliser tout ton système respiratoire, ça vient de faire vibrer tous tes résonateurs, tous les espaces qui peuvent vibrer à l'intérieur de toi viennent d'être sollicités. C'est un massage intérieur instantané.
Oui, puis il y a de la production de certaines hormones, mm-hmm. Il y a des changements même au niveau de la neuroplasticité du cerveau. Il y a plein de trucs, il y a plein d'études sur le champ, puis la méditation. Puis, mm-hmm. puis d'ailleurs, la méditation, il y a plein de types de méditation, mais souvent... un des exercices, ça va être d'avoir un seul objet de concentration. Fait que souvent, ça va être le souffle, mais ça peut être une note, mm-hmm. ça peut être le son, ça peut être la vibration, ça peut être un objet qu'on regarde comme la flamme d'une bougie. Fait que de juste faire un son, puis d'être concentré sur le son ou d'être concentré sur la vibration dans notre corps, c'est une forme de méditation.
Mm-hmm. Exactement. Je trouve que le simple fait de prolonger une note, moi, personnellement, mais là, c'est sûr, je suis une chanteuse aussi, mais c'est ce qui m'amène le plus rapidement en état méditatif plus profond.
Ben oui, puis en tant que femme, là, ça nous connecte vraiment beaucoup à notre intuition, tu sais, à notre ventre, puis la connexion à notre ventre, là, c'est vraiment fort. Puis tu sais, les animaux font des sons, hein, dans la nature, là, les animaux font des sons, puis... quand ils ont mal, ils font des sons, tu sais, puis justement, le son peut nous aider à réguler aussi la douleur quand on se cogne, tu sais, on peut... Je veux dire, au lieu de faire juste comme « aïe, aïe », on peut faire un cri qui ressemble plus à un chant, tu sais, mettons, je vois, moi, il y a un truc sur lequel je trippe, là, qui s'appelle, c'est une initiative européenne, je me souviens plus si c'est français ou belge, mais c'est une femme qui est partie d'un programme qui s'appelle « Naître enchantée mm-hmm. », puis... elle fait du chant prénatal puis du chant à l'accouchement. Elle enseigne aux femmes à chanter pendant leur accouchement, mais elles ne sont pas en train de chanter des succès populaires. Là.
Non,
c'est des sons, genre vraiment, tu sais, primo, je pense qu'on dit. Ouais, mais,
c'est le mot que je cherche.
Mais qui vont justement aider. Puis j'ai lu là, qu'il y avait comme un lien entre nos cordes vocales puis notre plancher pelvien.
Mais tout à fait. Moi, c'est je parle toujours de mon examen gynécologique. Et en tout cas,
oui.
Je me faisais faire un truc un peu intense. Puis là, j'ai dit à madame, est-ce que ça vous dérange si je chante? Elle était comme, go for it. Écoute, j'ai rien senti, là. Tu sais, c'est fou. Puis la fois d'avant, je m'étais évanouie, tu sais. Mm-hmm. Puis j'étais comme, OK, là, je vais pas me gêner. Mais tu sais, on a cette petite tension-là. Puis moi, je l'ai, tu sais. Je veux dire, je dis aux gens, non, mais osez, tatata. Pensez pas que nous autres, on est tout le temps, on y va allègrement, puis on ose tout le temps. Puis c'est pas ça, la situation. Mais c'est de se donner, c'est ça, toujours des outils, puis d'aller toujours un petit peu plus loin. Puis commencer par, je donne souvent l'exercice, commencer par, toutes les fois que vous ouvrez la porte du frigidaire, prenez une respiration consciente. Commencez par un petit truc comme ça. Puis à un moment donné, vous allez voir, oh shit, je me sens mieux. Il y a telle suite d'éléments qui se sont produits après. Puis après ça, bien, c'est de l'intégrer de plus en plus. Mais effectivement, il y a des recherches justement sur le champ pendant l'accouchement. Là. C'est impressionnant. Puis les bébés, quand ils sont dans le ventre de la mère, les chants, c'est le meilleur moyen pour eux de percevoir les mots, en fait. Parce que quand tu parles, t'es dans l'eau, donc t'es comme blablabla, t'entends pas grand-chose. Mais quand tu chantes, le simple fait d'étirer les voyelles, ça fait que le bébé va capter la voix de la mère beaucoup plus précisément, en fait, que par la simple
voix. C'est intéressant, je savais pas.
Ouais, c'est nice. Puis même, on peut aller au-delà, parce que l'intention, souvent, mettons que la mère, chaque soir, chante au bébé, tu sais, ben, y a une intention aussi de communication réelle, tu sais.
Mm-hmm.
C'est intéressant. Puis quand il va être né après, tu sais, si tu chantes avant, pendant, juste après, mais là, le bébé, il fait vraiment...
Il va reconnaître.
Il y a comme un lien dans son entrée dans la vie.
Oh, c'est beau.
C'est vraiment pertinent. Mais ça, on pourrait aussi en parler. J'ai l'intention de suivre une formation, là, justement. Je mettrai bientôt les infos parce qu'on est en train d'organiser ça, justement, avec une Française pour une association de chants prénatal, en fait, qui vient de donner une formation ici au Québec. Fait que je suis en train d'organiser ça, mais... C'est vraiment super intéressant.
Oui, mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à libérer notre voix, tu sais, à pas être gêné de chanter. Puis on peut commencer par le faire soi-même, puis comme je disais, tu sais, sans intention de performance, tu sais, juste faire une note, puis la faire fort, puis la faire puissante, puis comme... C'est une façon de crier aussi, là, tu sais, c'est une façon de faire sortir notre énergie, là, de faire sortir notre colère, de faire sortir notre tristesse, d'exprimer notre joie. Puis moi, je me rends compte, en fait, j'ai vu la différence, là, plus que je chante, plus que je suis capable de dire ce que je pense. Mm-hmm. parce que je suis comme moins gênée de ma voix. Je sais pas, là, ça a peut-être l'air un peu psychopop, là, mais je trouve que plus que je suis capable d'assumer mon chant, plus que je suis capable d'assumer, de dire des choses qui sont pas faciles à dire.
Non, mais il y a clairement un lien, c'est évident.
Ben, c'est de bâtir la confiance en soi.
Oui, puis c'est le soutien. Tu sais, juste, on pourrait parler juste du diaphragme. Ce que ça demande au diaphragme, qui est un muscle involontaire, là, qui agit depuis toujours sur vous, au cas où vous ne le saviez pas, il travaille beaucoup, beaucoup. On respire quoi, 23 000 fois par jour? Donc, mais tu sais, lui, le petit stress, là, quand vous n'hésitez pas à dire quelque chose ou quand vous dites « Oh non, je ne dirai pas », il y a une contraction qui se fait là, mais quand tu chantes, tu n'as pas le choix de libérer cette contraction-là. Mm-hmm. Tu sais, de vivre juste un petit track, c'est pas obligé d'être un track de scène, là, vraiment pas, là, juste un petit « Ah, oh, OK, je lâche puis je tiens ma note », c'est un mécanisme d'entraînement qui est super intéressant.
Puis qui a un effet sur le système nerveux. Puis...
Oui, mais c'est ça. Après, il y a plein d'autres choses. Là. Mais vraiment, c'est super intéressant. Puis je trouve ça vraiment intéressant qu'on en parle plus officiellement dans l'épisode d'aujourd'hui. Puis, tu sais, je trouve que si on veut clore un petit peu l'entrevue, bon, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui sont intéressés par la possibilité de prendre des cours de chant ou qui se demandent au niveau de leur étude vocale ce qu'ils ont envie de faire. Puis moi, la vie a fait que quand j'avais 9 ans, ma prof de chant, je savais vraiment pas, mais dans le fond, ce que je faisais pendant mon cours de chant, c'était 45 minutes de yoga et de méditation suivi de 15 minutes de chant parce qu'elle était obligée de me montrer Imagine. Puis si vous pouvez trouver ce genre d'équilibre au niveau de l'enseignement, moi, je le suggère vraiment. Puis je pense qu'on a montré beaucoup de belles évidences, de liens entre les deux arts, si on veut. Mais c'est le fait de chanter, de travailler la méditation, le souffle, d'être bien avec son corps, de se remettre en question, donc d'être bien aussi avec son mental, c'est vraiment un beau cercle, un bel équilibre à aller trouver. Je pense que c'est le cheminement d'une vie, dirais-tu ça?
Oui.
C'est sûr, hein?
Oui, puis tu sais, c'est comme, je sais pas pour toi, mais moi, c'est vraiment des cycles. Tu sais, des fois, je vais être vraiment beaucoup dans ma pratique, puis là, puis pas en tout. Puis là, je me sens pas bien, puis là, je suis comme, peut-être que je devrais recommencer ma pratique. Mais puis là, j'essaie de trouver quelque chose qui fonctionne pour moi dans ce moment-là, tu sais, qui est pas nécessairement de faire une heure de yoga à chaque matin, mais ça va peut-être être faire des exercices de respiration ou chanter, ou juste mettre la musique, puis chanter, puis danser. Mais je trouve que de me connecter à mon corps, c'est vraiment, souvent, c'est la réponse, là. Comme vraiment en pleine conscience de reprendre possession de mon corps, reprendre possession de mon souffle. Parce que moi, je suis une personne qui est très dans ma tête. Fait que souvent, c'est ça la réponse. Moi, c'est de redescendre dans mon corps.
Ouais, mais
puis dans mon cœur.
La société est beaucoup comme ça aussi. Tu sais, on est... Justement, il y a plein de conditionnements, fait que de retomber. Mais en même temps, je suis certaine qu'en libérant ton corps, tu libères aussi ta tête, tu sais.
Ben oui.
Puis tu t'ouvres à d'autres possibilités. En fait, il y a plus de trucs qui rentrent à un moment donné, forcément.
Oui.
Mais merci, Audrey-Anne. C'est vraiment le fun. J'apprécie tellement parler avec toi. Genre, je continuerai vraiment à l'infini.
Oui, le temps passe vite.
le temps passe vraiment vite. Mais c'est vraiment intéressant. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent, je ne sais jamais trop où, ont apprécié cet échange-là. Je vais mettre les notes pour les références que tu nous as données pendant l'épisode, si certaines personnes sont intéressées à aller lire davantage ou suivre les pages Facebook.
Oui, puis n'hésitez pas aussi à m'écrire si vous avez des réflexions par rapport à ce que j'ai dit. Si vous voulez me challenger, comme je disais, je suis toujours ouverte à changer d'idée, à m'améliorer, à me remettre en question.
Oui, puis tu sais, on a parlé quand même de plein de choses, puis il aurait fallu en parler encore vraiment plus longtemps. Mais tu sais, si vous avez des questions ou des éléments, peut-être des petits trucs qu'on n'a pas abordés longtemps, mais que vous avez envie d'en parler encore plus, bien, écrivez-nous, tu sais, soit sous le podcast ou sur ma page, sur mon site, ou je vais mettre toutes les références pour Audrey-Anne aussi. Puis rien ne nous empêche d'aller faire un autre épisode sur d'autres choses. Nous, on se voit quand même relativement souvent, puis on est contents. Ça nous donne l'occasion. Puis ça nous ferait vraiment plaisir. Puis honnêtement, Audrey-Anne, je trouve que tu es quelqu'un de très rare et très précieux.
Oh mon Dieu, c'est bien beau.
Non, mais j'apprécie vraiment beaucoup échanger avec toi. Puis à chaque fois que des fois, des toutes petites conversations, puis je suis comme, ah, OK, là, tu sais, tu me donnes des devoirs, mais dans le bon sens du terme. Puis je trouve ça vraiment pertinent d'avoir, puis j'espère qu'il y a beaucoup de podcasts qui t'inviteront à l'avenir, puis que je pense que tu as beaucoup de beaux projets à venir. Donc, j'invite vraiment les gens à suivre tout ce que tu fais.
Ben merci vraiment de m'avoir donné cette plateforme-là pour partager mes humbles pensées. Puis d'ailleurs, ben on peut en parler, mais
oui, c'est vrai,
Valérie et moi, on cogite sur une forme d'atelier ou même de retraite là, de bien-être et voix. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre un petit commentaire comme quoi ça vous intéresse. Ça nous permet de tenter le terrain. Mais dans les prochains mois, là, ça fait déjà quelques temps qu'on en parle. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça a pris un petit
c'est
peu
plus
de...
compliqué.
Ouais, d'un petit peu de retard, mais on est vraiment intéressés à collaborer ensemble sur ce genre de projet-là.
Il y a plein de belles choses, puis justement, si vous avez des questions ou des thèmes que vous aimeriez aborder, mais tu sais, peut-être qu'on pourrait en faire selon certains intérêts aussi, parce qu'on peut jamais...
En co-construction!
Non, mais tu sais, en fait, c'est qu'on peut jamais tout aborder, tu sais. Mais si, par exemple, les gens, je sais pas moi, ils veulent vraiment faire plus de liens yoga-voix, on peut développer en fonction de ça aussi. Fait que donnez-nous des idées. T'sais, nous, tout ça est très embryonnaire. On a envie de le faire, puis on brainstorm encore. Donc, gênez-vous pas. C'est à ça aussi que ça sert les podcasts. C'est un beau lien avec vous qui nous écoutez. Donc, encore une fois, un gros merci. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je vous mets, comme à l'habitude, nos liens en dessous de l'épisode. Vous pouvez nous écouter sur Balado Québec, mais également sur iTunes maintenant. Je travaille pour mettre le podcast sur toutes les plateformes. Ça s'en vient. Vous pouvez nous suivre sur Patreon. Si vous en avez envie, c'est toujours un soutien qui est vraiment très, très apprécié pour le podcast. Sinon, nous, on se retrouve dans 2 semaines avec mon invitée Brigitte Lamontagne. Et cette fois-ci, on parlera de l'apprentissage de la musique. C'est les tout-petits. En fait, donc ça va être un sujet qui est super intéressant, puis j'avais envie de l'aborder à la mi-août, là, tu sais, juste avant la rentrée scolaire, comme par hasard. Donc, s'il y a des parents qui nous écoutent, qui se posent des questions à ce niveau-là, soyez au rendez-vous. Merci beaucoup et à très bientôt.